Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Suzanne Le Maréchal et Estelle Laurent, bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Je vous présente, Suzanne, vous avez fondé cette association Thèse en images qui organise donc une soirée projection et musique. Ça se passe vendredi 13 décembre à partir de 19h au BAM, le bâtiment à modeler. Ça se trouve dans le quartier Clonet à Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu. Et Estelle Laurent, vous êtes la doctorante qui est au cœur du film documentaire que le public va pouvoir découvrir. Doctorante en géographie à l'université de Rennes 2. On reviendra dans un instant sur la nature de vos travaux. Alors on a déjà parlé à plusieurs reprises de Thèse en images sur cette antenne, une association qui a été lancée en 2020. Suzanne, à la base vous êtes vous-même issue du milieu de la recherche et pour résumer, vous avez découvert à l'occasion d'un travail de mémoire que quand même le message y passait un peu mieux en images.
Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que la recherche universitaire, c'était quelque chose de très ancré dans le monde universitaire, très peu connu à l'extérieur de ce monde-là, et que la vidéo est un média vraiment très intéressant pour pouvoir justement rendre ces recherches accessibles à un plus grand public.
Votre première réalisation, c'était Fier Arte, un film qui est toujours à voir en ligne.
Oui.
Qui nous emmène à la découverte des artisans de rue en Amérique du Sud. L'association Thèse en images, elle a aujourd'hui pour objectif d'accompagner les chercheurs pour valoriser leur travail en vidéo. Il y a eu cette web-série documentaire dont on avait déjà parlé, toujours en ligne elle aussi, Vers la résilience alimentaire, qui avait été réalisée avec les greniers d'abondance, et une autre de vos réalisations sur des formats plus courts. Ce sont aujourd'hui plus de 50 épisodes à découvrir, dans lesquels donc des chercheurs vulgarisent là en quelques minutes leurs travaux de thèse, on en dit un mot.
Oui, c'est ça. Ben, alors, bien sûr, ce n'est pas eux qui vulgarisent en quelques minutes, c'est nous qui allons les voir. On discute pendant une heure et puis on monte une petite vidéo de 5 minutes. Ça permet d'appréhender les différents sujets de recherche qui peuvent exister et d'avoir un panel plus large qui va de la médecine à l'histoire de l'art, à la géographie. Voilà.
On donne peut-être des exemples des derniers épisodes qui ont été postés, qu'on peut retrouver en ligne de tête.
Là, on a eu une personne qui travaillait sur les directeurs d'EHPAD, en sociologie, sur l'histoire de leur vie, comment ils gèrent les EHPAD, est-ce que ce qui se passe dans leur vie personnelle a un impact sur leur vie professionnelle et ainsi de suite. On a eu aussi quelques doctorants qui travaillent dans l'écologie et notamment sur les poissons dans le Rhône, l'impact du réchauffement climatique sur leur vie, sur leur métabolisme.
Donc ça, c'était Christine Valin et Julia Watson. On retrouve aussi, par exemple, Léo Dejeu sur le sujet de la plasticité de petits escargots aquatiques. C'est très pointu. Ou encore Raphaël Maguariec sur l'usage du sport dans les pays du Golfe. Il y a combien de personnes aujourd'hui chez Thèse en images, même si c'est vous qui l'avez fondé, ce projet? Je crois que les chercheurs peuvent adhérer.
Oui, voilà, ben, on est une cinquantaine d'adhérents, beaucoup de chercheurs du coup qui participent à ces petites vidéos, mais également des bénévoles qui viennent nous donner des coups de main pendant ces fameux événements qu'on organise, un volontaire en service civique, une stagiaire, et voilà, puis un conseil d'administration, bien sûr.
On imagine que sur du travail vidéo, qu'il soit vraiment sur du documentaire sur un temps plus long, comme le projet là dont on va parler dans un instant, mais aussi sur des vidéos plus courtes, il y a des questions de financement. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à rendre ce projet possible ?
Ben, difficilement, je pense, comme toutes les associations aujourd'hui avec les politiques publiques actuelle, mais bon, on arrive à, grâce aux événements, on arrive à récupérer de l'argent, aussi avec la ville de Rennes, l'Académie de Rennes, puisqu'on a aujourd'hui l'agrément Jeunesse Éducation Populaire. Et puis ensuite, par projet, donc par exemple pour le film sur le Sénégal, on va récupérer des financements donc de l'Université de Rennes 2, de la région, voilà, ça dépend.
Ici, Angor, Les lebous, nous, nous souffrent.
L'enjeu ici, c'est le territoire, en fait, parce qu'il n'y a plus d'espace.
Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour annoncer un événement autour d'un film documentaire que Thèse en Images a réalisé. On en avait déjà parlé au moment d'une première étape montrée au public sous forme de pièce de théâtre. Nathalie N'Gore, est-ce que je l'ai bien prononcé ?
Oui, c'est ça.
C'est le nom du film dont on parle et qui va être montré au public vendredi prochain, le 13 décembre, au BAM, le bâtiment à modeler qui se trouve dans les anciens locaux de l'Antipode dans le quartier Clonay à Rennes. Et donc le point de départ à ce film, c'est votre thèse en géographie, Estelle Laurent, thèse que vous avez menée sur le territoire sénégalais.
Au départ, donc moi j'ai fait une proposition de thèse après avoir déjà fait un mémoire au Sénégal sur un tout autre sujet. Et donc en rentrant de mon mémoire, j'avais envie de poursuivre des recherches là-bas, notamment sur des aspects artistiques au départ. Et puis finalement, en me retrouvant au Sénégal, j'ai choisi le terrain de recherche N'Gore, dont le film discute. Et donc ce sujet de thèse s'intéresse au rapport spirituel au territoire, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ce rapport spirituel, notamment avec l'urbanisation dakaroise qui depuis plusieurs dizaines d'années prend énormément d'espace sur le territoire de N'Gore, puisque N'Gore se trouve à Dakar, hein, et au départ c'est vraiment un village. Et qui s'est fait enclaver avec l'urbanisation et la mondialisation. Et donc, je questionne quel est ce rapport spirituel au territoire, notamment pour les jeunes. Et pour questionner ça, j'utilise la création artistique, et notamment le théâtre, avec le collectif Cœur MAM qui nous a suivis tout au long de cette aventure de recherche, qui continue ce programme Nathalie, puisque c'est devenu un programme aujourd'hui.
Sur quel temps s'étend ce projet ?
La thèse en soi, c'est sur un temps de financement de 3 ans, mais elle se poursuit parce que j'ai pas terminé d'écrire ma thèse. J'espère soutenir en fin 2025 grand maximum. Après, le programme Nathalie, donc qui a débuté en 2023, se poursuit aujourd'hui. Il y a eu une deuxième édition du festival Nathalie N'Gore. Nathalie, ça veut dire raconte N'Gore. Continue de se poursuivre. Là, il y a eu la Biennale d'Art à Dakar, on était dans les off. Il redynamise le centre culturel. Enfin voilà, c'est un projet qui n'a pas de fin, on l'espère.
Et il y a quel temps qui est consacré vraiment à du terrain sur place, donc dans ce village qui est devenu plus qu'un village, une ville ?
Moi, dans le cadre de ma thèse, il y a eu 3 mois au départ en exploration, 8 mois vraiment de programme et 3 autres mois où je suis retournée pour faire la deuxième session du festival Nathalie, seulement dans le cadre de la thèse, quoi.
Ce que vous avez observé, c'est donc, comme vous le disiez, entre l'expansion urbaine et l'explosion du tourisme, les habitants se sont retrouvés dépossédés de leurs terres, mais aussi de leur principale source de revenus, la pêche. Et avec donc certaines personnes qui sont parties travailler dans ces hôtels et ces restaurants qui se construisaient sur la côte.
Oui, c'est ça. Alors, ils sont partis travailler certains parce qu'il n'y avait plus trop de choix, parce qu'il y a des modifications économiques. Forcément, quand on modifie le territoire, il y a derrière des modifications sociales et économiques. D'autres aussi, ce qui est intéressant, mais on ne le voit pas forcément dans le film, mais je tiens à le rappeler quand même, c'est que certains ont décidé de construire des petits restaurants aussi pour lutter contre cette réappropriation du territoire par d'autres acteurs qui étaient extérieurs à N'Gore ou par des acteurs privés aussi, quoi. Donc il y a aussi des N'Gorois qui ont récupéré certains espaces en construisant des petits restaurants sur place. Mais voilà.
Comment vivent-ils cette transformation de leur territoire ? Comment s'adapter au décalage culturel et spirituel avec les nouveaux arrivants internationaux, mais aussi nationaux, permanents pour certains, temporaires pour d'autres ? Comment préserver une culture ancestrale et une gouvernance locale avec la mondialisation ? Des questions très complexes. Et quelles réponses vous y avez trouvées pour le moment ?
Oh, je ne sais pas si je peux parler de réponse pour le moment, parce que je suis en train d'analyser aussi mes résultats par rapport à ça. Mais en tout cas, dans le film, on va pouvoir voir... le film va permettre de poser un contexte et de soulever ces enjeux. Les réponses sont très complexes. Les enjeux le sont, vous venez de le dire. Donc les réponses sont aussi très complexes. Et je pense aussi que la recherche n'apporte pas forcément des solutions. Et donc moi, je ne vais pas apporter de solution, je ne vais pas venir dire c'est comme ça qu'il faut fonctionner derrière, mais je vais plutôt soulever ces questions et essayer de mettre en exergue toutes les réponses que proposent les jeunes, eux, de N'Gore.
Et est-ce que le doctorant, il a ce rôle d'amener des questionnements qui n'étaient peut-être pas forcément conscients, ou c'était déjà dans les discussions entre ces personnes que vous avez rencontrées ?
La question du rapport spirituel en soi n'était pas forcément évoquée comme telle, mais en fait, elle apparaît de d'autres manières quand il y a eu des conflits fonciers à Angkor. Mais là, dernièrement, nous, pendant qu'on tournait le film, il y avait aussi certains conflits autour d'une gendarmerie qui allait s'implanter, alors que les habitants voulaient majoritairement un lycée à la place. Enfin, en tout cas, en ces lieux-là. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que le lieu que la gendarmerie a voulu prendre, c'est un lieu qui est un lieu aussi sacralisé. Et donc, finalement, en fait, c'est à ce moment-là que ce rapport spirituel va réintervenir dans les échanges en soi. Mais je pense qu'on... effectivement, il faut faire attention à ne pas amener des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il y a tout un temps d'exploration et de compréhension du terrain avant d'engager certaines démarches. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas.
Ces questions qu'on évoque, vous les avez donc amenées auprès des habitants et vous avez recueilli la parole, notamment celle des jeunes, en choisissant un médium artistique. Pourquoi et puis de quelle façon ça s'est vraiment mis en place ?
Alors, c'est la parole des jeunes parce que faut voir que effectivement, quand on propose des programmes artistiques, des programmes autour de la création, et bien c'était les jeunes qui, de fait, étaient plus attirés par ça. Donc c'est pour ça que finalement ça a été les jeunes. Mais au départ, c'était toutes les générations comprises. Donc les autres générations, on a fait des entretiens, voilà. Pour la création artistique, donc je me suis vraiment alliée avec Cœur Mam, donc je parlais tout à l'heure, le collectif culturel présent à Angkor depuis 2016, et donc avec Tafa, qui est le personnage principal qu'on suit dans le film. On a cherché des moyens pour organiser différents types d'ateliers de création. Donc, comme je disais, il y a le théâtre, il y a la création numérique aussi avec HD Graphisme, qui est un artiste, qui est Hassan Diallo, qui est artiste aussi rennais. Il y a eu une activité de fresque, voilà. Il y a eu plusieurs activités et du coup, l'objectif, c'était de trouver le moyen à la fois de permettre soit le fait d'apprendre une pratique artistique et... en même temps, se poser des questions sur ce sujet de recherche-là. Donc, je ne peux pas parler de participation parce qu'ils n'ont pas participé depuis l'élaboration du sujet, mais en tout cas, ils ont participé à faire de la donnée de scientifique, à transmettre des données de recherche parce qu'ils se sont eux-mêmes posé ces questions-là. Ils ont une approche vraiment très réflexive, à la fois individuelle et collective. Et tout ça, moi, je les utilise après aussi comme données pour essayer de comprendre quelles sont les perceptions du territoire d'Angkor par ces jeunes-là.
Est-ce que ce groupe de jeunes avait un regard particulier sur les sujets évoqués, peut-être différent parfois d'autres générations sur leur territoire ?
En fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que justement certaines générations pensaient que certains jeunes, en tout cas, n'avaient pas de considération au sujet du rapport spirituel. Et il s'est avéré que ils nous ont appris beaucoup de choses. Et il y a eu des échanges entre générations aussi à un moment donné où ils se sont rendus compte qu'en fait, non, ils sont très au courant des histoires autour de rapports spirituels, des pratiques spirituelles aussi. Mais effectivement, il y a un manque de transmission parfois, pas tout le temps, mais parfois il y a un manque de transmission, mais qui, moi, je pense, et c'est là où il y a un peu de résultat dedans, moi, je pense, est aussi lié justement à la transformation globale du territoire. Le fait qu'on ait des horaires de travail, par exemple, de 8h à 17h, ensuite, voilà, on va travailler à la famille et tout ça, fait que on n'a plus le même temps pour avoir des moments de transmission entre générations. Les espaces aussi, le fait qu'on n'ait plus autant d'espace qu'avant pour se retrouver, pour se regrouper, fait que, forcément, ça modifie des modes de transmission. Donc, oui, je pense qu'il y a une appréhension différente de la part de la jeunesse, mais en même temps, la jeunesse, moi, que j'ai rencontrée en tout cas, est très consciente de l'importance de ce rapport au territoire et très consciente de leur culture et du fait qu'il faut la préserver.
Ce travail de recherche, il se raconte donc dans un documentaire, Nathalie Angkor, qui a été réalisé par l'association Thèse en Images. C'est à voir vendredi 13 décembre au bâtiment à modeler à Rennes. Un documentaire réalisé par vous, Suzanne Le Maréchal. Quel souvenir vous gardez des moments de tournage et de la réalisation de ce film ?
Moi, je suis allée 2 mois sur le terrain, retrouver Estelle, qui était déjà là-bas depuis un moment, pour justement ce festival Nathalie Engor qu'elle avait organisé, la pièce de théâtre et tout ça. Moi, ça a été une découverte complète du sujet, même si ça faisait déjà plusieurs mois, voire années, qu'on travaillait dessus avec Estelle. Mais d'arriver là-bas, de rencontrer Tafa, ça a été une très grosse découverte, et surtout... comment on a été accueillis. Le collectif Corman a vraiment participé de A à Z au film, à nous présenter le monde. On a pu s'intégrer très facilement dans le village grâce justement à ce collectif. Donc ça a été une expérience assez incroyable, difficile à monter, puisque beaucoup de choses à dire et en peu de temps. C'est un film qui fait 45 minutes. On a choisi 45 minutes parce que ça permet d'avoir des discussions à la suite. Voilà, ça fatigue pas le public. Si c'est 1h30, après, on n'a plus trop envie de discuter. Donc voilà, c'est d'essayer de condenser un sujet si large. Et donc, encore une fois, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un film qui ne résume pas la thèse d'Estelle, mais qui permet une ouverture de s'intéresser plus en avant à tout ce qu'elle va pouvoir raconter de plus. Donc voilà, là, c'est vraiment basé sur les jeunes du village, ce qu'ils ont à dire, et de contextualiser le sujet.
Donc ce film, il va être présenté pour la première fois au public vendredi. La projection sera suivie d'un temps d'échange et les conseillers de réserver sa place pour assister à la soirée en allant sur la plateforme de financement participatif helloasso.com. Il y aura peut-être d'autres projections déjà prévues. C'est un film que vous souhaitez présenter ailleurs ?
Normalement à Rennes, à la Maison des Associations, le 15 janvier. On aura aussi au cinéma associatif Montfort-sur-Meux le 3 mars, le 4 mars au Tambour à l'Université de Rennes 2, puis ensuite il y en a aussi dans d'autres villes en France, faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux pour plus d'informations.
Sur les réseaux sociaux et puis sur votre site internet, le site de l'association Thèse en Images. Vendredi, la projection débat, elle laissera ensuite place à d'autres animations, en l'occurrence de la musique, on donne un peu le programme.
Oui, on s'est associé à 2 collectifs pour la musique, le collectif Jam Diffusion, qui est un collectif franco-sénégalais, qui organise un festival qui s'appelle Niofar, en septembre à Rennes, en avril à Dakar. Ils sont venus avec Sunugal Ben, qui est un peu le groupe phare de ce collectif-là. Ils sont 5 musiciens originaires de Dakar et certains de Rennes, et voilà, qui viendront faire de la musique. Et le deuxième, c'est le collectif Untitled, qui fait également, enfin dont Estelle fait partie d'ailleurs, et deux de leurs fondateurs, Pietro et Octam. Et voilà, ils viendront faire un DJ set d'une heure et demie à la suite de ce festival-là.
Donc les deux propositions, c'est à 21h30 puis 23h avec de la musique. On le redit, le prix pour accéder à cette soirée est libre. Ça, c'est pour le projet Nathalie Engor, donc du côté du Sénégal. Je crois qu'il y a un autre documentaire qui est en préparation. Il nous reste quelques minutes pour en dire un mot. Cette fois, on part de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, le prochain projet de Thèse en Images sera en partenariat avec Félix Flo, qui est doctorant à l'UHESS de Paris, l'école des hautes études en sciences sociales. Donc lui, il travaille sur les migrants en Guyane française, et notamment sur le fait qu'il y ait un droit d'exception, c'est-à-dire que les migrants aujourd'hui en Guyane n'ont pas les mêmes droits que les migrants en France métropolitaine. Et donc c'est un peu la remise en question de pourquoi, et à travers des récits de vie de migrants. On s'associe également avec une illustratrice qui viendra dessiner ces migrants qu'on ne peut malheureusement pas filmer, puisque beaucoup sont en conditions d'illégalité. Donc voilà, ça sera un peu un documentaire fiction, avec des images animées.
De nombreuses personnes venues d'Haïti, du Brésil, du Suriname ou encore de Syrie sont ciblées par des dispositifs hors normes de contrôle des mobilités ou encore par un droit d'asile spécifique.
Un film dont le tournage est prévu pour 2025 et la sortie idéalement en 2026. Et le fait que vous travaillez avec une illustratrice, ça explique qu'il y a aussi un financement participatif en cours à retrouver sur la plateforme helloasso.com. C'est le moment où je vous représente Suzanne Lemaréchal, donc fondatrice de l'association rennaise Thèse en Images, et Estelle Laurent, doctorante en géographie à l'université à Rennes 2. On vous retrouvera vendredi pour cette soirée projection, mais aussi musique. Ça se passe vendredi 13 décembre à partir de 19h au bâtiment à modeler qui est dans le quartier Clonay. Une soirée à prix libre et toutes les infos sont à retrouver en ligne sur la plateforme de financement participatif helloasso.com. On vous retrouve aussi évidemment sur un site internet et puis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'infos locales à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr. Boop 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 boop.